Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est un voyage tout particulier que je vous propose d'entreprendre à travers la réflexion et la perception de mon invité. On y va pour les détails.
Médien. Yasmine, version homme.
Fereda Belhaj, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être ma version homme de femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Reda?
Doudla, avec plaisir. Je suis heureux d'être avec toi.
Merci, merci beaucoup. Alors, quand on te pose cette question de comment ça va, en général, est-ce que tu prends le temps de répondre ou de réfléchir à la réponse profonde, à ton état vraiment intérieur, le comment ça va, pas le comment ça va supérieur, superficiel, mais le comment ça va, le vrai.
Pour moi, ma réponse intérieure et immédiate à laquelle je pense tout de suite, c'est que ça va toujours bien, puisque celui qui organise notre journée, c'est celui qui fait lever le soleil le matin. Donc comment pourrait-on ne pas aller bien? On est certain que le soleil va se lever demain matin. Personne ne doute là-dessus. Donc, dans ce sens-là, si on est persuadé que la houla ou la couette et la bilaï, qu'il y a une force de puissance qu'en Dieu, et que notre vie est dans les mains de Dieu, comment pourrait-on s'inquiéter de quoi que ce soit?
Vous avez toujours été comme ça, avec cette foi très, très, très forte?
Elle change avec l'évolution. Si on était au même niveau après 10 ans, c'est qu'on a perdu 100 ans. Quoi. On est là pour progresser. Donc c'est un chemin de jour en jour.
Alors, vous avez justement pas mal de podcasts autour du soufisme. Vous avez donné beaucoup d'interviews. On y arrive comment dans le soufisme?
Enfin, pour moi, le soufisme, c'est l'islam. Hein. Il n'y a pas de différence. C'est que ces derniers temps, ces 50 dernières années qu'on fait une différence. Mais dans l'histoire du Maroc, les gens étaient soufis, étaient musulmans. C'était absolument ça. C'est-à-dire que l'islam a pénétré le Maroc et d'ailleurs tous les pays musulmans, à l'origine par ce qu'on appelle aujourd'hui le soufisme. C'était l'islam, quoi.
C'est une réponse assez rapide. Mais vous, justement, comment vous êtes arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui le soufisme?
Parce que j'ai voulu aller plus loin. Au début, je suis tombé sur des livres d'Abou Hamid al-Razali. Puis petit à petit, j'ai compris que tous ceux qui avaient vraiment quelque chose à dire dans l'histoire en islam étaient liés à ça, quoi.
C'est votre métier aujourd'hui, pleinement?
Disons que c'est ce que je fais de mes journées pleinement, oui. Quand on parle de métier, c'est pour gagner l'argent, c'est pas le cas, quoi.
C'est pas le cas. Alors, vous gagnez votre vie comment?
Nous, on a une entreprise familiale. On est dans l'agriculture, dans l'immobilier, familialement, quoi.
Et ça vous permet de travailler d'être dans ça aussi en même temps? Parce que vous devez bien gagner votre vie.
Oui, mais je gagne ma vie familialement, c'est pas moi qui gère l'entreprise familiale. Donc ça me donne du temps. Je suis dentiste de formation. Hein.
Dentiste de formation, vous avez pratiqué ou pas?
Non, j'ai fait une spécialité, mais je n'ai pas pratiqué. J'ai pratiqué dans le cadre de la spécialité.
Oui, donc en réalité, vous n'avez jamais travaillé en fait?
Si, j'étais chef d'entreprise pendant des années.
Ok, alors là j'ai plein d'éléments, on va y aller petit, je suis désolée d'être intrusive, mais c'est un petit peu l'idée du rendez-vous, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qui a construit mon invité en fait, qu'est-ce qui fait de mon invité, quelle est la personne devenue aujourd'hui. Et donc...
Ah ben ça c'est la même construction pour chaque individu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus, qui est à la fois très simple et beaucoup plus complexe. On imagine, mais oui. Chacun est...
Alors justement, jusque-là, vous avez choisi de me répondre de façon simple. J'aimerais qu'on arrive un petit peu plus vers le complexe, si vous le permettez. Vos réponses étaient très courtes et simples. J'ai fait, tac. Oui. Alors que Reda Belhaj n'est pas n'importe qui dans ce contexte-là.
Si.
Non, preuve en est, j'ai eu votre contact en me disant c'est mon maître soufi, il m'accompagne spirituellement, etc. Donc vous êtes dans une autre dynamique. Certains vous voient comme une forme de guide spirituel. D'ailleurs, c'est le terme qu'on a utilisé avec moi, c'est mon guide spirituel. Et donc voilà, cette personne, comment elle vit en 2024? Voilà, c'est ce qui m'intéresse en fait, savoir comment on est guide spirituel en 2024.
En 2024 ou en 2000 ou n'importe quelle date, si on revient à ce que c'est que le soufisme et l'islam, c'est d'être constamment à l'intérieur avec Dieu et à l'extérieur avec les gens. Donc on vit à l'extérieur de manière tout à fait normale. C'est à l'intérieur que les choses se passent. D'ailleurs, c'est le principe de l'islam par rapport, si on doit comparer à d'autres religions, c'est qu'on vit, qu'on soit dans un chemin initiatique ou qu'on soit, quel que soit le niveau qu'on a en islam, on vit normalement. C'est absolument la vie que doit avoir un musulman, qui soit accompli ou pas. C'est à l'intérieur que les choses se passent. Aujourd'hui, on est dans un monde où les choses s'accélèrent et on a tendance à résumer de manière très simple toute chose. C'est à l'ère d'Instagram où on zappe à chaque fois et on veut savoir en quelques mots qu'est-ce que c'est quelque chose. Mais c'est comme un être humain, on le résume à un prénom, à un nom, à une action qu'il a fait. Mais un être humain, c'est bien plus complexe que ça. C'est un univers qui a été... En fait, c'est un rêve divin. Chaque personne que l'on rencontre dans la rue a été rêvée et matérialisée par Dieu. Donc c'est très facile ensuite de résumer une personne en juste un mot ou une phrase ou une fonction. Un mot ou une phrase, parce que la fonction, ça dépend de ce qu'on fait de ce mot-là. Tout mot que l'on dit dépend de la connotation qu'on lui donne derrière. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, avec les autoroutes de l'information, la vérité n'a plus aucun sens, parce qu'on la déforme et on l'utilise et on la simplifie. Et je suis assez complexe, ou pas encore assez complexe, dans ce que je dis.
Tant que j'arrive à vous suivre, non mais quand j'ai dit complexe, je parlais d'autre chose en fait. Quand je disais complexe, je parlais d'autre chose en fait. C'est pas un chemin de vie simple et habituel. Essayez de me prendre comme je suis, assez terre à terre, je pose mes questions simples. Voilà, c'est pas un chemin de vie simple. J'ai avec moi en ligne quelqu'un qui a fait des études, qui a fait une formation, qui n'a pas bossé dans ses études, dans sa formation de dentiste. Pourtant, c'est des études longues, il faut au moins 7 ans, je pense. Donc, ces 7 ans-là, on les met de côté. Après, on devient chef d'entreprise. Après, on ne travaille plus et on se consacre à sa foi et à soi et aux autres. Donc voilà, pour moi, c'est pas un parcours
artiste,
simple.
Je suis artiste, je fais des expositions, j'écris, je fais de la photo. La vie est assez large, le temps passe très vite, on essaye d'être le plus là présent, parce que toute l'histoire, c'est d'être dans l'instant présent.
Mais ça, vous l'avez compris quand exactement, justement, de vivre l'instant présent, de vivre ce que vous voulez, de ne pas être dentiste, de ne pas être chef d'entreprise, mais d'être Reda Belhaj, libre de tout et de choisir.
Libre de tout. La seule chose dont on doit se libérer pour être vraiment libre, c'est de se libérer de son ego, parce que c'est lui qui nous emprisonne avec cette vision justement. Assez matérialiste et simplifié de la vie où on a toujours besoin de plus. Mais beaucoup de gens pensent que être dans une religion, dans une confrérie ou un chemin initiatique ou quoi que ça emprisonne. Alors qu'en fait, ça libère. Parce que c'est des outils de libération de l'ego. Et l'ego, c'est celui qui nous fait souffrir. Et tout l'objectif est d'arriver à la paix. En fait, quand on parle de chemin spirituel, on parle d'un chemin de paix. C'est pour ça d'ailleurs que l'islam vient de paix et que le paradis dans le Coran c'est Dar es-Salam et que l'on distribue aux autres justement ce salam dans le salam alaykoum, c'est tout l'objectif est là et cet objectif passe par cette libération de l'ego qui nous empoisonne notre vie au quotidien et qui nous fait comparer et qui nous fait juger alors que tout le chemin est justement pour retrouver une unité qui est apaisante, on passe par l'amour parce qu'on est intrinsèquement ce que l'on aime. Et donc, je sais que ce que vous essayez de dire, c'est comment on arrive à ce chemin. Et ben, chaque personne est dans ce chemin, qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas. C'est, des fois c'est apparent chez certains, des fois pas, mais tout le monde, c'est le sens de la création sur Terre.
Mmh. Et vous, justement, en particulier, vous êtes arrivé comment ?
Je suis arrivé par le soufisme, mais d'autres arrivent par d'autres moyens. Moi, je suis arrivé au soufisme, mais c'est d'abord par la lecture et ensuite par la rencontre de gens qui étaient plus avancés dans les confréries, comme ce qui s'est fait dans l'histoire musulmane. Hein, parce que ce dont on parle aujourd'hui, c'est ce qu'était Ibn Battuta. Hein, mm. Il était dans une confrérie, ou Salah ad-Din Ayyub, ou Sebahat al-Rijal à Marrakech, ou tous ceux qui ont fait quelque chose en islam. Et c'était comme ça qu'était le monde musulman avant. Les gens étaient liés aux chaînes initiatiques. C'est ce qu'on voit, toutes les koubbas que l'on voit à travers le Maroc. Je suis né à Berkane, je suis berkanais. Ben, le fondateur de la ville, Sidi Ahmed Berkane, si vous allez au niveau de sa tombe, il y a une plaque où c'est écrit Maître Chadili du XVIe siècle. C'était un maître soufi, comme la plupart de ce qu'il y a au Maroc. Donc ce n'est pas quelque chose de récent dans notre pays, ou ce n'est pas quelque chose d'anormal ou d'exceptionnel.
Non, bien sûr, absolument. Est-ce que certains ne confondent pas ce cheminement aujourd'hui, un raccourci de...
Les gens raccourcissent la spiritualité à du développement personnel.
Bon, personnel, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, absolument.
C'est parce que le chemin spirituel dont on parle, il est lié à un ancrage religieux puissant. On parle de... C'est le principe d'un arbre, on doit avoir des racines profondes pour que les branches puissent aller loin. Et aujourd'hui, on trouve souvent des gens qui ont soit des racines profondes et pas de branches, ou soit des branches qui vont partout, mais sans racines. Et l'arbre finit par tomber. Il y a un équilibre entre un ancrage religieux qui est indiscutable, et ensuite un universalisme que les gens ont perdu. Un universalisme complet qui est basé sur un amour inconditionnel, et qui fait qu'on retrouve ce qu'était l'islam, c'est-à-dire un islam qui inclut absolument toutes les autres spiritualités, et non pas qu'il les rejette. Mmh. Et par conséquent, quand on parle de développement personnel aujourd'hui, c'est très lié d'ailleurs au New Age aux États-Unis, parce que le développement personnel s'est beaucoup développé là-bas, c'est qu'en fait, on recherche, on utilise des outils spirituels pour arriver, par exemple, je prends l'exemple du yoga. Mmh. On fait du yoga pour arriver à une forme de paix, mais en fait, le yoga, c'est des outils spirituels très profond, d'une spiritualité très ancienne, d'une religion très ancienne, et qui a été simplifiée à outrance par la pratique du yoga, qui est très agréable, mais qui est en même temps très éloignée de ce pourquoi ça a été fait. Quoi.
C'est en train d'arriver au soufisme aussi ? À moindre échelle peut-être, mais...
Non, le soufisme, il ne faut pas croire que... Le soufisme, c'est les quelques personnes aux États-Unis, enfin, ils sont nombreux, à écouter Rumi et à penser qu'ils sont soufis. Mm. Non, le soufisme est très ancré dans le monde musulman. Il y a des millions et des millions de gens qui pratiquent le soufisme et qui sont très religieux. C'est pas quelque chose de nouveau. Là, on le voit un peu dans ce milieu un peu moderne au Maroc, et que ça arrive, mais c'est quelque chose qui est très ancré. En Indonésie, il y a des dizaines et des dizaines de millions de soufis, comme il y en a dans beaucoup de pays musulmans. Il y a des gens d'ailleurs qui ne connaissent l'islam que par ça, comme souvent en Afrique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui entendent les messages d'amour inconditionnel de Rumi, et qui sont passionnés par ça, mais qui ne se posent pas la question comment Rumi est arrivé à cet état-là. Et Rumi est arrivé à cet état-là par un chemin qui était... basé sur le soufisme et sur une pratique rigoureuse de l'islam. Et effectivement, donc tout ça fait que beaucoup de gens se disent « Oui, c'est très beau le soufisme, c'est très beau, il suffit de lire des livres et d'être dans l'amour et ça y est, on est soufi. » Non, c'est pas ça. Tous ceux qui ont été des maîtres soufis dans l'histoire musulmane étaient des pratiquants rigoureux. Mmh. C'était même des amoureux de la prière. Rumi était un amoureux de la salat musulmane, quoi. C'est des gens qui m'ont parlé avec beaucoup de profondeur.
Alors, vous êtes justement beaucoup sur les routes, vous voyagez beaucoup. Dans l'imaginaire collectif, le soufi, c'est aussi ce solitaire, parfois ce vagabond. Ça va ensemble pour vous ?
Non, chaque individu est un cas particulier. Chacun a sa formule, chaque personne sur Terre est unique et chacun a un chemin particulier. On est regroupé dans des religions, mais ensuite, chacun a besoin d'un certain nombre de choses pour son évolution. Et c'est Dieu qui organise tout ça. Ce n'est pas l'individu. On est dans les mains de Dieu, chacun d'entre nous. C'est juste... c'est un peu comme si... comme si on était dans des films, mais quand on était l'acteur principal de nos films et que les autres sont des acteurs secondaires, bah, il ne faut pas oublier que il y a un seul réalisateur pour tous les films. Quoi. C'est dans ce sens que...
C'est une définition très moderne. Hein,
ah ben, oui. On dit que le soufi est le fils de l'instant, donc on s'adapte dans le contexte dans lequel on est.
C'est pour ça que je disais tout à l'heure, oui, en 2024. Mais... C'est par rapport au contexte actuel, en fait.
Oui, mais très moderne, oui. Mais bon, quand je parle de film et que... En fait, l'objectif de chacun dans son film est d'être le témoin de la grandeur divine dans son film. Et bien, en fait, c'est ce que dit Ibn Arabi au XIIe siècle quand il dit qu'on est tous les témoins de l'agent unique. Les témoins, les shahides, la notion de shuhada, elle est là, d'être témoin de la grandeur divine dans ce que l'on voit. Et maintenant, la question qu'on pose, c'est que la vie passe extrêmement vite. Et qu'est-ce qu'on est venu faire dans cette vie, quoi ? C'est la question que beaucoup de gens ne se posent pas et sont juste là à essayer d'avoir soit un maximum de plaisir ou un maximum de sécurité, mais ils n'essayent pas d'avoir une paix et un sens, ce qui est des choses parfois à l'opposé, parfois très différentes. On confond plaisir et bonheur. Quoi.
Est-ce que c'est une question que vous pouvez vous poser tous les jours ?
Non, on ne se pose pas ce genre de questions. Quand on essaye d'être dans l'instant, on essaie d'être là et d'agir. On ne se pose pas trop de questions. Se poser des questions, c'est un processus qui est très intellectuel.
Oui, mais vous venez de dire, certaines personnes ne se posent pas la question de qu'est-ce qu'on vient faire ici ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Oui. Il y a une question de base, on se la pose une fois et on vit avec.
Ok. Donc il n'y a pas de shot de rappel.
Non, chacun, encore une fois, chacun est particulier. Il y a des personnes qui ont besoin de rappels constants parce qu'ils sont dans l'engrenage de la vie et cet engrenage, il n'est pas toujours facile de sortir à la tête et de s'apercevoir qu'on ne va pas dans le bon sens. Quoi. Pourtant, la plupart des gens travaillent de manière intensive pour avoir une retraite, mais ils ne pensent pas à ce qu'il y a juste après la retraite. Parce que la retraite, on peut la toucher pendant 10 ans, ou ne pas la toucher, ou la toucher pendant 30 ans, mais qu'est-ce qui se passe après ? Et peu de gens se posent réellement cette question, parce qu'on parle de questions. Mais une fois qu'on se la pose, et qu'on se dit on veut être en adéquation entre ce que l'on fait dans la vie et notre intériorité, et qu'en fait, au fur et à mesure, la manière dont on agit et ce que l'on fait, on s'aperçoit qu'il y a un impact à la fois sur les autres, mais aussi sur notre intériorité, et ce qui donne un changement et une évolution.
Redab El-Hajj, justement, est-ce qu'on peut aujourd'hui donner une définition du soufi ?
Le soufisme, c'est la voie intérieure de l'islam. Donc le soufi, c'est celui qui essaie d'aller profondément à l'intérieur de lui. C'est tout le chemin est un chemin intérieur. C'est le soufisme, mais c'est aussi toute l'histoire des spiritualités et l'histoire humaine. Qu'Alice, l'Iliade et l'Odyssée, et le voyage d'Ulysse, il va mettre 10 ans à rentrer chez lui, mais en fait, c'est le voyage intérieur dont on parle, où les sirènes vont l'attirer à l'extérieur.
Alors justement, vous en êtes où dans ce voyage ? Est-ce qu'on est capable de savoir presque géographiquement à l'intérieur de soi où est-ce qu'on se trouve ?
On se trouve toujours dans un endroit qui est en mouvement. Mais comment on appelle les gens qui sont dans les confréries ? On les appelle les fuqara parce que plus on avance dans le chemin, plus on sait qu'on est pauvre et que Dieu est riche. C'est pas un chemin où on essaye de calculer où c'est qu'on est et combien on a gagné. Quoi. On est là justement pour essayer d'être... de plus en plus dans la compréhension qu'on est pauvre. Quoi.
Absolument. J'imagine qu'on est constamment dans une forme d'humilité et d'avantage encore.
Mais c'est la clé de tout chemin spirituel, quel que soit notre chemin, c'est l'humilité. C'est vraiment la seule base. Parce que Iblis, dans le Coran, était avec les anges. C'est son problème, ça a été l'humilité. C'est le problème de l'être humain en général. Parce que l'ego, c'est lui qui cause le malheur des gens, en général, dans ce monde ou dans l'autre. Donc l'humilité est vraiment la première chose à essayer de développer intérieurement. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut développer, l'humilité. On ne peut pas le développer de manière artificielle. On ne peut pas se dire « je suis humble » parce qu'il faut être humble. L'humilité, c'est comprendre que dans chaque personne, il y a quelque chose que Dieu a mis à l'intérieur, ce que Dieu a mis dans Adam. Que chacun a quelque chose d'unique à l'intérieur de lui, une partie du puzzle. Et que c'est un géant dans ce domaine-là, dans ce degré-là. C'est un degré de l'expression divine. Et dans son domaine, il est le meilleur au monde. Et si on regarde les gens qui sont autour de nous de cette manière, ben là, on devient humble.
On voit l'image différemment, complètement différemment. Reda Belhaj, merci infiniment de nous avoir consacré de votre temps pour parler spécialement de vous. Merci beaucoup, merci infiniment.
Merci.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Médien et à tout moment, à la demande et en avant-première sur Médien Podcast et les plateformes de podcast habituelles.